France Musique.
Très bon été à vous, cher Nicolas Lafitte.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive, j'arrive.
Bonjour à tous. Pour notre dernière de Fabrication Maison, nous allons déjà regarder du côté de l'été dans notre portrait, avec le musicien Raphaël Imbert, qui pour France Musique se transforme en producteur et nous réjouira tous les samedis de cet été de ses choix musicaux. Le reportage, lui, nous fera découvrir quelques anciens de la maîtrise de Radio France et leurs amis dans une toute nouvelle production de Péléas et Mélisande. Puis nous évoquerons le hip-hop orchestra de l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec son concepteur Issam Krimi. Jean-Yves Pat nous quittera avec quelques archives nostalgiques et enfin nous lirons une dernière lettre d'auditeur. Vous êtes prêts ? On y va. Fabrication Maison, dernière.
France Musique.
Bonjour Raphaël Imbert.
Bonjour Dominique.
Alors Raphaël, ce matin, les auditeurs en avant-première vont découvrir finalement le son de votre voix, puisqu'on va vous retrouver pendant tout l'été, le samedi à 11h, dans une série d'émissions qui s'appelle « L'heure de plaire ». Mais peut-être que les auditeurs vous connaissent déjà, ceux qui en tout cas sont amateurs de jazz, ils ont entendu le son de votre saxophone.
Je crois, et puis surtout sur cette station, hein, je pense qu'il y a eu pas mal de...
Il y a pas mal de jazz.
Il y a eu pas mal de jazz.
Il y a eu pas mal de captations de concerts.
Tout à fait.
Et puis vous êtes chef d'orchestre, et puis vous êtes écrivain, et puis vous êtes compositeur, et puis vous êtes pédagogue. Vous voulez tout faire avant de ne plus pouvoir.
Ben ça, oui, c'est un peu ça. Il y a une sorte de boulimie de faire pas mal de choses, surtout quand on fait du jazz, en fait. J'ai une définition du jazz qui est personnelle, hein, parce que vous savez, il y a autant de définitions du jazz qu'il y a d'amateurs et de gens qui détestent le jazz aussi. Le jazz, c'est le geste musical qui me permet de jouer avec qui je veux, quand je veux. Alors c'est super, c'est très large. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'expérimentation pour mettre en œuvre ce dicton, on va dire. Voilà.
Alors on va essayer de faire votre portrait en musique ce matin, et puis vous nous régalez, puisque on commence la journée ou presque avec une cantate de Bach.
Oh,
Nous écoutons l'aria finale de la cantate BWV 82, Ich habe genug, de Jean-Sébastien Bach, bien sûr. Alors la voix, c'est celle de René Jacobs. Et l'ensemble, c'est un ensemble ami, l'ensemble 415, Raphaël Imbert.
Oui, de Chiara Banchini, bah, c'est juste pour faire un petit coucou et rappeler tout ce magnifique travail que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec des musiciens classiques, des musiciens baroques aussi. Je pense au Quatuor Manfred, je pense à des musiciens du Louvre avec François Rollin à Grenoble il y a quelques temps. Et l'ensemble 415, et particulièrement Chiara Banchini, qui est une musicienne assez extraordinaire. J'ai eu la chance de la rencontrer par le biais de Zigzag Territoire, qui était mon premier label. Et on a fait une création ensemble, tout un projet assez développé pour le Festival de Besançon, c'était il y a quelques années déjà. Oui. Et pour moi, c'est déterminant en fait dans mon travail. Moi, je suis autodidacte complètement au saxophone, académiquement parlant, que ce soit en musique ou dans mes recherches, je suis aussi autodidacte.
Je suis vous prenez tout ce que vous rencontrez, vous le dévorez, vous
le transformez, le transgresser au sens premier du terme, c'est-à-dire que je crois beaucoup à la force transgressive du jazz. Pour moi, il y a deux styles de musique d'un point de vue politique et d'un point de vue pédagogique, et les musiques de subversion, enfin celles qui contestent vraiment, qui affirment quelque chose, et en musique classique, en musique contemporaine, il y en a beaucoup, mais il y a aussi le rap, il y a le hip-hop, il y a le rock, il y a le punk, ce genre de choses. Et puis il y a des musiques qui sont nées dans des contextes beaucoup plus polissé, mais pas justement polissé au sens police, hein, surveillance, à un moment donné où on pouvait pas forcément dire exactement ce qu'on pensait, mais il fallait le dire de façon codée. Et là, je pense au swing en général et au jazz en particulier, au negro spiritual, au work song, tout ce qui est lié à la période de l'esclavage, qui s'est développé avec la période de la ségrégation, qui s'est développé aussi vis-à-vis de beaucoup de totalitarisme dans le monde.
Par cette musique.
Exactement. Ouais. Voilà. Alors justement, dans le cas de la musique dégénérée, on a affaire à une musique qui était vraiment affirmative. Et le swing pour des musiciens, notamment ces musiciens allemands exilés, alors on travaille beaucoup notamment avec le Quatuor Manfred et Marion Rampal, on a tout un projet qui s'appelle Bye Bye Berlin qu'on va développer et enregistrer cette année. On explore un peu cette dimension contestataire et de l'exil de cette musique, mais on voit que le jazz a une valeur de transgression, c'est-à-dire on sape un petit peu les fondations, mais de façon assez l'air de rien, en fait, en quelque sorte. Quand je travaille avec des musiciens classiques, je leur dis attention, je vais pervertir ce que vous avez appris.
Mais ils se laissent faire.
Tout le monde a envie de ça en ce moment. On est à une période passionnante, d'ailleurs, arrêtons de dire que c'était mieux avant.
Ah non.
On est d'accord.
Incroyable les croisements qui peuvent
exister. Oui, et puis on n'est plus dans le crossover un peu gentil. On est dans le, maintenant, on joue de la musique ensemble.
On essaie de se parler.
Voilà. Et laissons-nous faire un petit peu. Moi, de mon côté, j'ai tellement appris auprès de Chiara Banchini, auprès de Marianne Muller dans l'ensemble 415, auprès de l'ensemble Contraste avec Joanne Fargeau, Arnaud Torette, avec Carole Beffa ou avec le Quatuor Manfred. J'ai vraiment appris au niveau de l'écoute, au niveau de la façon de faire de la musique. C'est hallucinant. C'est des choses qu'on ne fait plus en jazz. On a tellement l'habitude, vous savez, ça swing, on se laisse faire, on improvise, youpi. Alors quand on fait de la musique de chambre, alors que moi je suis un très mauvais lecteur, je suis vraiment autodidacte et tout, on apprend énormément. Et j'ai l'impression que je rapporte quelque chose. Donc ça, c'est important.
Raphaël Imbert, parlez-nous de Taylor Reed Session qui interprétait ce morceau de Bluegrass. Vous vous y connaissez mieux que moi, je crois.
En fait, là, c'est la crème de la crème des musiciens de Bluegrass des années 80. Il y a Bela Fleck au banjo, Sam Bush à la guitare, à la mandoline, excusez-moi, Mark O'Connor au violon, Jerry Douglas, qui est connu aussi en tant que musicien de rock plutôt, au dobro, et Edgar Meyer à la basse. Edgar Meyer, on le connaît sur des sessions aussi avec Yo-Yo Ma, immense musicien classique qui s'est aussi intéressé à la musique américaine. Ce qu'on appelle l'Americana, en fait. L'Americana, c'est l'ensemble des musiques rurales, folkloriques, mais développées maintenant avec
et
ce côté moderne.
Et toujours très vivante.
Ah, extrêmement vivante. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un album qui a marqué un peu les esprits parce que c'est le bluegrass, c'est quoi, en fait? Bluegrass, c'est des musiciens de country qui, dans les années 40, décident de montrer qu'ils sont des grands virtuoses. C'est Bill Monroe. C'est Ralph Sandley qui nous a quittés il y a quelques jours. D'ailleurs, je l'ai appris en venant ici au studio aujourd'hui, à 89 ans. Je pense aussi à Dr. Watson, tous ces gens, alors légendaires, là-bas. En France, ils sont moins connus parce qu'on considère vraiment ça de la musique. C'est de la musique de Pecno, un peu ça, on aime bien les catégories en France, on aime bien la musique dite noire, voilà, et tout ça c'est la musique de paysans blancs, de réac et tout ça. Pour moi c'est l'équivalent du bebop, ils ont fait avec la country ce que les Charlie Parker, Thelonious Monk ont fait au bebop, des musiciens qui se sont pris en main et qui ont décidé de faire de leur musique une musique aussi d'écoute, de virtuosité, de recherche et tout ça. C'était le cas dans les années 40, après ça a un peu ronronné avec l'arrivée à Nashville, des grands spectacles de country, alors un peu identitaire justement, ben là voilà, nouvelle génération de musiciens, alors tous ces musiciens maintenant ont 50, 60 ans, des virtuoses absolument incroyables. Ils sont tous capables de jouer la musique classique. Bela Fleck joue du Bach à chaque concert de country quand même. Au banjo, alors ça fait marrer, je sais pas ce qu'en penserait Jean-Guillaume Keras avec qui je vais jouer avec,
ça
bientôt.
Lui, il aimerait beaucoup.
Je pense que j'aimerais beaucoup, ça c'est sûr. Mais c'est des virtuoses vraiment de toutes les musiques. Et c'est un moyen pour eux de montrer que leur musique est toujours d'actualité, qu'elle plonge dans les racines. C'est un peu comme le jazz, hein. C'est à la fois dans la mémoire, le patrimoine et dans la création. Puis c'est tous des improvisateurs hallucinants. Là, on entendait Edgar Meyer faire un solo. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de contrebassistes avec cette technique et cette musicalité maintenant. Et donc, c'est pour moi toujours très important de parler de ça, de mettre en avant des groupes qui sont, parce qu'on a toujours un peu ces clichés en tête en France, je trouve, et on oublie toujours l'importance qu'ont eu ces musiciens de country, de folk, d'americana au sens large, dans le développement justement de la musique de swing, de l'improvisation. Donc moi, j'ai fait beaucoup de recherches dans le sud des États-Unis, j'y vais régulièrement. Je fais autant avec du gospel, du blues, du jazz, dit afro-américain, mais je vais aussi, au départ, la première fois que je suis allé dans les Appalaches voir des musiciens de bluegrass, j'avais vraiment peur de j'avais ces clichés en tête. J'ai dit, qu'est-ce que je vais trouver? Ça peut être très intéressant. Puis c'était passionnant. Ça fait vraiment du bebop.
Vous avez
quoi.
Fait votre petite Bartok, votre petit Kodai avec la musique américaine, parce que finalement, c'est ça. C'est quand même des rythmes populaires, des chansons folkloriques, etc., qui traversent
complètement
la mémoire des musiciens et qui se développent, qui se transforment.
Si ce n'est que pour moi, j'essaie de trouver le fil dans toutes ces musiques. Pour moi, c'est la première musique du monde. Toutes ces musiques-là, jazz, Americana, maintenant, le mot jazz, il regroupe tout ça, et le mot Americana regroupe aussi tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des musiques qui sont issues. Et par exemple, la country, on aurait tendance, nous, à voir ça comme une musique blanche, mais là-bas, tout le monde vous dit, mais non, c'est la musique noire comme les autres. C'est la musique, je veux dire, on fait cette musique, c'est de la musique celtique, de la musique anglaise qui a été remaniée par notamment la rencontre avec les esclaves et notamment les esclaves fugitifs. Là, c'est une musique qui vient de la montagne, des Appalaches, cette chaîne de montagne qui part de New York jusqu'en Alabama, jusqu'en Louisiane.
Il s'y cachait.
Eh ben, il s'y cachait.
Bien
et
sûr.
En fait, il y a eu des rencontres absolument déterminantes. Ouais. C'est une grosse part des racines des musiques dont on parle et les histoires du jazz en France ne parlent jamais de ça. Et moi, je suis frappé par cette ignorance.
Thank you.
C'est Duke Ellington qui était au piano, Raphaël Imbert.
Un piano un peu spécial, c'est un piano mécanique en fait, avec percussion intégrée. C'est le genre d'instrument qu'on retrouve dans les cinémas, dans les clubs à l'époque. Mais les Américains ont une passion patrimoniale pour ces instruments. Et je voulais passer ce document parce que c'est un document assez rare, avec les ducophiles convaincus connaissent bien. Mais ça s'appelle Jig Walk. C'est vraiment, on est vraiment un peu dans les racines aussi de ces musiques afro-américaines, un peu plus urbaines pour le coup. Ça date de 1926 et c'est un extrait que j'ai utilisé dans une exposition qui m'a été confié par le MUCEM et le festival Marseille Jazz des Cinq Continents, où aux archives et bibliothèques départementales Gaston de Fer, j'ai exposé une centaine d'objets qui viennent des fonds du MUCEM.
Avec le fil conducteur?
En fait, le festival et le MUCEM ont dit ta carte blanche. T'es commissaire.
C'est quand même bien.
Ah non, mais en ce moment, il m'arrive que des choses comme ça. C'est quand même génial. C'est extraordinaire.
Parce que je rappelle, Raphaël Imbert, que vous êtes là ce matin parce que vous allez être l'une des voix de France Musique pendant tout l'été, le samedi à 11h, dans l'heure de plaire.
Oui, tout à fait. C'est quand même un bel été. Alors, vous pouvez m'écouter sur France Musique, vous pourrez venir voir cette exposition, dont France Musique est partenaire d'ailleurs, venir me voir en concert, parce qu'on a pas mal de choses aussi.
Et cette exposition, Aix-en-Provence en particulier, vous faites un gros travail pédagogique.
Gros travail pédagogique, gros travail de création aussi.
Dans le cadre du festival.
Dans le cadre du festival, une carte blanche qu'on a déjà commencé le 4 juin avec l'ouverture. On a fait aussi un solo avec Omax, logiciel de l'IRCAM. Ça, c'était la semaine dernière. Et puis, on a un concert en hommage à Paul Robson le 8 juillet avec Marion Rampal. Et enfin, l'Orchestre des Jeunes de Méditerranée avec Jean-Guillaume Keras. Ce sera le 18 juillet, le 19 à Marseille et le 21 à Milan. Ça, c'est génial, j'ai joué en Italie avec cet orchestre, ça va être extraordinaire.
Et là, vous jouez Raphaël Imbert ou vous composez ?
Tout.
Tout.
Et donc cette expo accordée au jazz, en fait, là dans les fonds du MUCEM, j'ai trouvé des pianos mécaniques justement. Ils ont un fond de piano mécanique qui date de cette époque-là. Donc en fait, notamment un piano qui s'appelle Accordéon Jazz, qui a donné le nom à l'exposition, et où on focalise grâce à tous ces documents. Vous savez, le MUCEM est l'héritier du musée de la chanson, du musée des arts et des traditions populaires. Donc en fait, j'ai trouvé énormément de partitions, de vinyles, d'objets très différents. C'est vraiment magnifique. Et le but, c'était pas de raconter l'histoire du jazz, mais c'était de raconter des histoires de jazz et de montrer l'influence que cette musique a eue sur toutes les musiques populaires françaises.
Musique populaire française, on passe à la chanson ?
Oh bah oui, tout à fait.
Alors dites-nous tout, qui est cet homme qui chante Gabriel Fauré et Verlaine ?
Alors c'est le trio Chine Lapoune qui est constitué de Manu Théron, qui est un chanteur provençal, on va dire, hein, qui est un ami.
De par chez vous alors,
Marseillais, vraiment, hein, voilà. Et Didier Malaverne au tuba et Patrick Vaillant, qui est un mandoliniste, comme Sam Bush tout à l'heure, mais dans une tradition plus italienne, plus méditerranéenne. Alors déjà, c'est des musiciens que j'adore. Ils ont chacun une activité très dense dans toute cette recherche entre musique populaire, mais au sens musique du peuple, musique Le folklorique, j'aime pas, hein, mais musique du monde aussi, et recherche, créativité, puis aussi exploration. Enfin, Manu Théron, c'est un grand, grand amateur de mélodies françaises. Donc, le fait de reprendre Forêt et Verlaine, avec sa dimension poétique, de l'intégrer dans des projets de Chien Lapoune, ils ont fait beaucoup aussi de disques autour de poètes provençaux, aussi, ils reprennent Vincent Scotto, évidemment. Mm-hmm. Pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème à intégrer ça.
Il n'y a pas de frontières.
Il n'y a pas de frontières. Il y en a, parce qu'on sent, quand même l'esthétique de la voix, le marquage de cette voix qui est celle de la musique populaire méditerranéenne et provençale, mais qui permet de faire toutes sortes de musiques.
Raphaël Imbert, alors faites un petit peu ça, cette émission que vous nous proposez tout l'été, une sorte de télescopage de vos... De cette, j'ai l'impression que c'est incroyable géographie que vous avez dans la tête de la musique qui
oui,
est absolument...
Oui, parfois je m'y perds un peu.
C'est vrai, ça fait un peu des dalles.
Oui, mais en fait, justement, là je remercie vraiment France Musique de nous donner l'occasion sur 8 émissions, 8 heures en tout, de vraiment explorer cela, parce que généralement quand je l'explique, ça paraît un peu...
Confus.
Je sais pas, enfin moi ça ne l'est pas. Oui. C'est l'idée que la musique, il y a quand même des liens, il y a quand même des points communs, il y a des choses qui peuvent faire sens à travers une thématique. Donc je prends une thématique par heure en fait, sur le vivant, l'aimant, le swingant. C'est quoi swinguer en fait? On parlait de Jean-Guillaume Keras ou Amandine Beyer ou Caria Bambouki. Pour moi,
swing.
Ça swing.
Ouais.
Et d'ailleurs, les musiciens baroques utilisent le terme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et parler de Charles Trenet, et parler de Bob Wills, qui était le grand divulgateur du swing aux États-Unis. Enfin, y a tous ces genres de choses que pour moi, c'est important à travers un mot. Il y a la dernière émission, c'est sur l'universel. Ça veut dire quoi être universel en musique? Est-ce que la musique est un langage universel, comme on dit si souvent? Tout ce genre de questions m'interpellent, mais c'est surtout important de faire écouter. Et puis, c'est faire écouter des choses très connues. Moi, je fais ça en concert. Chaque fois que je monte sur scène, il y a toujours quelqu'un avant qui me dit « J'espère que vous ne faites pas du free jazz. » On se méfie du jazz, on se méfie de l'improvisation, on se méfie de ce genre de choses. Il y a eu tellement, soi-disant, d'excès. Mais en fait, moi, je dis « Si, je fais du free jazz, vous allez voir, le free jazz, c'est génial. On peut danser sur le free jazz. Ornette Coleman, vous savez, c'est très dansant. Albert Heller, c'est très mélodique. Ah, mais non, le free jazz a tué le jazz. » Et puis, à la fin du concert, j'ai joué des choses connues, j'ai joué des choses totalement improvisées, j'ai joué des choses, des compositions que j'ai écrites la veille. Et le but, c'est à travers des choses qui résonnent dans la mémoire des gens et des choses qui résonnent comme des choses très nouvelles, on arrive à faire sens. Et c'est un peu l'émission, c'est faire ça avec une discographie, avec un parcours, un tiers de musique classique, un tiers de jazz, un tiers de musique du monde ou de musique pop, et de voyager là-dedans et de dire aux gens, bah regardez, oui, finalement, vous aimez Albert Heller. Oui, vous aimez David Bowie. Voilà.
Et puis, il y en a certains qui font la synthèse. Sonny Rollins et Tchaïkovski, heureux mariage.
Ah bah oui, complètement, hein, vous vous rendez compte.
Raphaël Imbert.
C'est grâce à ces rencontres, grâce à cette permission que Rollins s'est donnée de pouvoir jouer Tchaïkovski, on se rend compte aussi du pouvoir mélodique. Alors évidemment, chez Tchaïkovski, on s'en rend parfaitement compte. Mais de voir aussi que ça peut être transformé en standard, ça peut être aussi le vecteur d'improvisation, le vecteur d'une interprétation qui est différente. Moi, je me bats toujours un petit peu contre les puristes de chaque style, notamment le jazz d'ailleurs, hein. Faut dire les choses aussi telles qu'elles sont, hein, où il y a vraiment aussi maintenant de plus en plus d'interdits, paradoxalement, hein, par rapport à ça. Toutes les musiques sont interprétables. Il faut le faire avec goût, il faut le faire avec cœur. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a plein d'expériences comme ça qui ont donné des choses un peu foireuses. Il y a aussi des chefs-d'œuvre. Celui-là est un chef-d'œuvre. Et pourtant, je me rappelle très bien quand le peu de classe que j'ai fait dans les conservatoires, on me disait qu'il fallait pas écouter ça. Non, mais pourquoi il a fait ça? Il aurait pas dû le faire. Il aurait pas dû le faire comme ça. J'ai dit, écoutez, c'est Rollins, c'est un des plus beaux, si ce n'est le plus beau saut de saxophone de l'histoire, qui rencontre Tchaïkovski, qui est un des plus grands mélodistes de l'histoire aussi. Ça me paraît assez logique.
Merci Raphaël Imbert. Alors, on aurait pu vous entendre, vous aussi, au saxophone, mais c'était la grève mardi dernier à France Musique, donc on n'a pas pu enregistrer vos musiques, mais en tout cas, on aura l'occasion de vous retrouver dans l'heure de plaire tous les samedis de cet été à 11h, et on s'en réjouit. Merci Raphaël.
Merci beaucoup.
La maîtrise de Radio France s'amène à tout, mais beaucoup à la musique, comme nous allons le voir tout à l'heure. C'est au Collège Saint-Charles à Paris que j'ai retrouvé en plein travail une bonne partie de l'équipe de La Petite Maison. La Petite Maison, c'est un collectif de jeunes musiciens-chanteurs réunis grâce à Victor Jacob, un ancien de la maîtrise, et Camille Doucet. Leur premier projet, c'était de monter une version de Péléas et Mélisande de Claude Debussy, et ils l'ont fait.
Et 4, 5, 6...
Moi, je m'appelle Islotte et je suis flûtiste. Moi, j'ai déménagé à Amsterdam il y a un an, où je suis le master là-bas. Et l'année prochaine, je vais être académiste au Concertgebouw à Amsterdam. C'est une belle année en perspective.
Bravo! Bon, bonjour. Alors toi, tu joues?
De la clarinette, Cécilia. Et moi, je viens de Lyon. J'ai étudié au CNSM de Lyon et là maintenant, je suis au CNSM de Paris. En master de musique de chambre, et je ne connaissais pas Victor, et je suis ravie de participer à ce projet.
Donc je suis violoniste. Moi j'étais dans la même classe que Victor au lycée, et puis après on s'est croisés un petit peu parce que j'étais pas à la maîtrise, mais ça restait un bon groupe d'amis, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Et après on a grandi, on a évolué chacun de nos côtés, puis on s'est rappelé là pour les nouveaux projets de Victor par exemple.
Alors parlez-moi un petit peu de ce projet Péléas et Mélisande. Déjà vous travaillez une partition qui a été arrangée, j'imagine, pour les 15 instrumentistes que vous êtes.
Oui, c'est un arrangement, c'est une version écrite pour orchestre symphonique à la base. Et là, on est donc, je crois, 15 musiciens sur scène. Un quintet à cordes, un quintet à vent, une harpe, un accordéon et des percussions. Donc ça fait 13. Mais voilà, c'est beaucoup moins qu'à l'original. Du coup, les parties sont assez différentes, beaucoup plus fournies. Et on fait une version légèrement plus courte que l'original.
Ce qui fait que chacun d'entre vous est assez exposé, en fait.
Oui.
Donc ça veut dire qu'en fait vous avez une place chacun en tant qu'instrumentiste et vous interagissez avec le chef d'orchestre pas mal, donc j'ai l'impression.
Ouais, quand même. On a pour chacun, je pense, et dans le quintet à cordes et dans le quintet à vent, une voix qui regroupe tout notre pupitre finalement. Parce qu'à l'orchestre, par exemple le pupitre de flûte, je sais pas combien ils sont normalement dans Péléas, mais c'est au moins 3 j'imagine. Et donc la partie qu'on a nous maintenant, dans la version de chambre est beaucoup plus fournie puisqu'elle comporte toute notre section, donc toute la section flûte par exemple, toute la section clarinette. C'est pas toujours évident.
Oui, mais en même temps, c'est intéressant.
C'est très intéressant. C'est très intéressant. Après, moi, je peux pas trop me plaindre parce que la flûte est pas tellement un instrument physique, mais je crois que pour les instruments à hanches, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'en plus, on leur demande un ambitus assez développé, finalement. Par exemple, pour le basson, il passe vraiment du très grave au très aigu. Et comme il y a toujours des chanteurs, on essaye au mieux, en tout cas, d'essayer d'ajuster les nuances. Et donc, finalement, on ne joue jamais vraiment confortable pour les instruments à hanches. C'est un petit peu plus délicat, quand même.
Le travail en fausse est très, très différent parce qu'on a la fausse, justement, qui permet de réduire un petit peu la masse sonore. Mais il faut toujours s'adapter aux chanteurs. Et là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus exposé. Et il faut faire attention, exactement, à ne pas couvrir les chanteurs. Donc, c'est un autre travail, mais c'est toujours très intéressant aussi. Ouais.
Et alors, les autres, vous avez déjà une expérience comme ça, opératique ?
Au conservatoire, on a des sections d'opéra avec les classes de chant. À Lyon, c'est une par an. Donc moi, j'ai pu y participer dans le cadre de mes études. Après, c'est des cachetons ponctuels à l'opéra de Lyon, ou de Paris, ou d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça, c'est très intéressant dans ce cadre-là, parce qu'on est donc très nombreux, on est sur scène. Il y a beaucoup plus de proximité, beaucoup plus d'échanges avec les chanteurs qu'en tout cas ce que moi, j'ai pu connaître avant. On voit les répétitions, on travaille avec eux... Et c'est beaucoup plus, ouais, beaucoup plus humain que ce que j'ai rencontré moi avant. Ça, c'est très intéressant.
Dominique Boutel, Victoire Bunel, Mélisande.
Salut.
9, s'il vous plaît.
Tu peux chanter ?
Oui, oui, chante, s'il te plaît.
Mais toi, tu
moi, oui, je suis chaud. 4, 5, 6. Tu vas voir tout à l'heure.
Mélisande.
Donc moi c'est Victoire, je viens de terminer ma troisième année au CNSM.
Dans la classe de
Valérie Guillory. Je pars l'année prochaine un an en Erasmus à la Royal Academy, là où était Victor pour ses études en direction. Et je reviendrai pour mon Master 2 à Paris.
Alors, Lida. Ah bah très bien, oui. Victoire, on va faire ça, c'est jamais bien. On fait 9, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas toi, mais c'est jamais ensemble, le touti. On fait 9. Alors, qu'est-ce qui se passe? À 10, ça fait méga accéléré. Oh, oh, large, mes cheveux, c'est l'œil de la pali, 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 ya pam, biam, pali. Ok?
Et alors vous, Victoire, le fait que Victor soit un ancien chanteur, est-ce que vous le sentez ça dans sa façon de diriger ?
Oui, bien sûr, il est très à l'écoute, il sait exactement quand il faut faire attention à la balance, à des choses comme ça. Et puis aussi parce que juste on se connaît très bien, enfin un rapport particulier, une histoire de famille comme dit Lisette. Ouais. Ouais.
Vous aussi, Victoire, vous étiez à la maîtrise ?
Oui, pendant 6 ans.
Tu m'as fait mal. Laisse-moi relever la tête.
Non, mais tu fais pas, moi j'ai sur le temps. Laisse-moi relever. Okay. C'est peut-être pour ça qu'on prend un peu de retard. 13, dernière fois. C'est bien. 13 électriques.
Oh, oh, tu m'as fait mal. Laisse-moi relever la tête. Je ne t'entendrai mieux pas. Laisse-moi. C'est Golo. Je crois que c'est Golo. Il nous a entendus.
Attends. Tes cheveux. Okay.
Ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de voir comment, à partir de la maîtrise de Radio France, qui est un lieu où quand même on a une formation extrêmement complète, les chemins qu'empruntent les jeunes chanteurs sont très divers. Donc, par exemple, Victoire, vous, c'est le chant qui est resté, en fait.
Ah oui, oui, oui. J'ai enchaîné tout de suite la maîtrise avec le CNR de Paris. J'étais au Jeune Cœur, où j'ai passé 6 ans aussi. Et ensuite, j'ai enchaîné directement au CNSM. Donc là, moi, le chant, je ne l'ai jamais quitté. Oui. Même si on entend souvent ça, et c'est vrai, en sortant de la maîtrise, il faut retrouver sa voix à soi. Et plus chanter en groupe, et puis plus avec une voix d'enfant. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui prennent du temps. Mais ça m'a apporté tellement à côté que je regretterai jamais d'être allée là-bas. Jamais. Ça nous a apporté aussi un bagage musical. Juste, on avait une fréquence de concert qui était impressionnante. On a une formation qui est quand même extrêmement complète. On a des cours de piano, des cours de solfège de façon très intense. Enfin,
oui, vous devez être une excellente lectrice, par exemple.
Ça va. Mais juste, ça nous fait gagner un temps fou après. Enfin, on peut, justement, on a pris du, entre guillemets, du retard sur le développement de notre voix seule. Quand on sort de la maîtrise, c'est qu'on a un gros décalage entre notre niveau musical et le niveau de notre instrument.
Victoire Bunuel, Mélisande.
Mais voilà, avec le temps, c'est des choses qui se rééquilibrent.
Et puis vous avez dans l'oreille absolument tout le répertoire. Je trouve déjà de la musique médiévale quasiment jusqu'à nos jours, puisque la maîtrise chante beaucoup de contemporains. Et puis cette écoute quand même, j'imagine que dans une production comme celle-là, vous savez écouter quoi, les autres.
Ah oui, bien sûr, ça c'est typiquement quelque chose que j'ai appris à la maîtrise et qui restera pour toujours.
1, 2, 3, 1, non, et qu'il s'embrasse, petit père, non, non. Merci, voilà, c'est ça.
Alors, Liselotte, vous, c'est plutôt le choix de l'instrument que vous avez fait en sortant de la maîtrise.
Moi, j'ai continué la flûte en parallèle à la maîtrise. Et quand, à la sortie, à la fin de la terminale, j'ai arrêté complètement le chant et j'ai repris la flûte de manière plus intense. Parce que c'était un petit peu plus compliqué de travailler les deux. Et le temps à la maîtrise et le temps qu'il fallait passer sur la flûte dans ces années-là. Mais donc, à l'issue de la maîtrise, je me suis plus concentrée sur la flûte. Mmh. Je trouve, je ne sais pas ce que l'on pense, Victor, mais plus on grandit, plus on s'en rend compte en fait, de ce qu'on a accumulé, de ce qui est devenu naturel, instinctif. C'est vraiment impressionnant. Et même si on nous demandait beaucoup de rigueur, il y avait beaucoup de choses à la fois. C'était un énorme apport humain, social, musical. Il y avait des choses plus difficiles, mais qui ont aussi permis d'être plus rapide après, quoi, plus sensible à tout ce qui nous entoure. Moi, pour la flûte, je le sens énormément que j'ai fait du chant, mais vraiment.
Vous chantez?
Plus maintenant, non, plus maintenant.
Non, mais vous chantez avec votre flûte, je sais pas.
Bah, j'essaye le plus possible d'être expressive, et je pense que le chant, le placement de la voix, etc., m'a beaucoup aidée pour la flûte, parce que c'est quand même deux instruments assez similaires. Hein. C'est le souffle, et c'est, ouais, c'est l'expression, c'est le naturel, enfin...
Qu'est-ce qui fait que les uns et les autres, vous soyez engagés dans ce projet qui, finalement, en tant que musicien, est une belle expérience, mais c'est vrai que c'est pas très rémunérateur. Il y a beaucoup de choses qui se fabriquent sur le moment. Vous avez tous à peu près le même âge, la même expérience. Qu'est-ce qui vous motive dans un projet comme celui-là?
L'après. Là, maintenant, on travaille et c'est très intéressant. Du coup, on rencontre les autres musiciens. On travaille sur la mise en place de l'opéra avec l'orchestre, avec les chanteurs, parfois rassemblés, parfois en partiel. Ça, c'est évidemment très intéressant, mais c'est aussi l'après. Et là, on travaille dans le but de redonner cet opéra par la suite et de continuer à l'approfondir et à l'améliorer et à l'enrichir. Et voilà, le but, c'est qu'il y ait une suite à tout ça et que ça ne s'arrête pas là.
Et que la petite maison devienne une grande maison.
Bah oui, bien sûr.
Bah, peut-être aussi, parce que c'est quand même cet opéra, c'est une merveille quoi, à chanter, non?
Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons. Déjà, c'est Victor, le plaisir de pouvoir travailler avec lui. Parce que, mine de rien, depuis la maîtrise, on se recroisait. Mais après, pour travailler ensemble... Et puis évidemment d'avoir l'opportunité en fait d'avoir un rôle comme ça dans un opéra là où j'en suis dans mes études, ça n'arrive pas en fait. donc ça c'est quelque chose que on ne pouvait pas ne pas être enthousiaste. Mmh.
un peu tard en fait ton contretemps de 4 avant 36, tu vois. D'accord. 1, 2, 3, 4, ouais, celui-là quand même, vas-y. D'ailleurs, direct avant 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 avant 36. 1 et 2 et 1. Attention. Et.
Passionnant dans cet opéra, et vous en avez peut-être déjà parlé, c'est le travail du texte et comment Debussy, mais on le sait, hein, c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre, c'est comment Debussy a tout écrit en partant du texte tout le temps.
Victor Jacob, chef d'orchestre.
C'est pour ça que c'est aussi difficile, c'est pour ça qu'il n'y a pas un seul thème qui revient, il n'y a pas de mélodie qui revient ou très rarement et très furtivement, il n'y a pas un da capo, il n'y a pas voilà, ce qu'on voit dans l'opéra classique, italien ou romantique, etc. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement dur, donc ça le rend très dur pour l'orchestre, parce que chaque mesure est une nouvelle mesure. Il ne faut pas faire confiance à sa mémoire courte, immédiate, voilà, il faut faire confiance à sa mémoire de répétition et de, ou quand on a entendu l'opéra, pour savoir ce qui arrive. Et c'est ce qu'on disait, et surtout par exemple, enfin, pour tout le monde, pour la justesse par exemple. Un musicien, quand il joue un accord, il a besoin de savoir où il est dans l'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'il joue la base de l'accord, la fondamentale, la tierce, la quinte, ou d'autres, puisqu'il y a plein de septièmes, neuvièmes, etc. dans Debussy. Eux, ils n'ont que leurs notes sur leur partition. Du coup, s'ils ne le savent pas avant, s'ils ne l'entendent pas avant, c'est compliqué. Donc ça le rend très dur pour l'orchestre. J'ajoute à ça les changements de tempi, puisqu'il suit le rythme du texte. Comme moi, là, je parle en ce moment, je change tout le temps de rythme. Du coup, je pense que donc ça rend ça, du coup, la chose très, très dure, rythmiquement. Donc ça, c'est pour tout le monde. Même un peu plus dur pour les musiciens parce qu'ils n'ont pas le texte devant eux. Donc ils peuvent même pas se dire « Ah bah là, il est en train de dire quelque chose que moi je dirais vite, donc on va accélérer. » Ils n'entendent pas toujours les chanteurs, c'est compliqué. Malgré qu'il n'y ait pas de fausse, voilà, c'est compliqué quand même. Après, le travail est extrêmement intéressant avec les chanteurs et avec Victoire, c'était super de bosser là-dessus, même si on a toujours envie d'aller beaucoup plus loin. Debussy, il ne met pas une seule indication de tempo précise, c'est-à-dire c'est retenu, animé, voilà, et parfois il y a même triste, on ne sait pas. Alors évidemment, évidemment, on se réfère à des versions, etc., ce qu'on a tous fait. Mais c'est très intéressant aussi de se dire, voilà, pianiste, chanteur, chef, metteur en scène, très important avec Camille Doucet, on a parlé des personnages aussi beaucoup, ça nous a beaucoup aidé. Et voilà, et comment on va dire cette phrase ? Quel tempo ? Et en fait, plus on travaille, je trouve, plus on se rend compte qu'il faut rester à ce qui est écrit. Si on fait tous les rythmes déjà, et tout l'opéra à tempo, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment où on ne va pas changer, on ne va pas faire des rubato tout le temps, etc., déjà, on a quelque chose qui se tient extrêmement bien. Après, on peut ajouter beaucoup de touches personnelles et ce ne sera pas grave. Mais déjà, si on colle à ce qu'a écrit Debussy, note pour note, c'est déjà bien.
Victor Jacob, est-ce que vous pensez que votre formation à la maîtrise va vous conduire progressivement en tant que chef d'orchestre vers l'opéra, ou est-ce que le symphonique est toujours quelque chose qui vous intéresse ?
Il faut explorer le répertoire symphonique. Rien que pour comprendre mieux l'orchestre, c'est important. En revanche, l'opéra, ça m'a toujours fait très envie. C'est pour ça que j'avais monté un ensemble, d'ailleurs, à Londres, avec un autre chef qui s'appelle Marc Ajar, et qui j'ai fait Nouvelle Portée à Paris, qui s'appelait Place de l'Opéra. Et on faisait justement des extraits d'opéra avec orchestre et de jeunes chanteurs. Et c'est clair que quand je ne bats, pour parler crûment, quand je ne dirige que la musique de l'orchestre sans prendre en compte dans mon geste la voix, et moi mon oreille est sur la voix évidemment, hein, mais je ne bats que l'orchestre, je trouve que ça marche moins bien. Alors que si je leur montre aussi dans mon geste qu'ils entendent, ou peut-être qu'ils n'entendent pas, mais peu importe, mais au moins ils tendent l'oreille, ils savent ce qui est intégré à la musique, et ben ça aide tout de suite beaucoup et ça crée un son qui est tout de suite bien homogène avec la voix, et je trouve ça passionnant. Le désir est né très tôt grâce à Tony Ramone, à la maîtrise, ça c'est clair et net. J'avais jamais pensé à diriger quoi que ce soit. Déjà, je connaissais très mal la musique classique, mais en rentrant à la maîtrise en 2000, et en voyant ce que c'était que ce métier de chef, de chœur en l'occurrence, c'est plus fédérer quelque chose et aussi faire parler ses émotions, en fait. Et il y avait plein de choses, je me souviens en répétition, où je me disais « Ah là, j'aimerais bien diriger ça, pas pour être là et contrôler, mais plus pour apporter mon truc et ma vision, pas qu'elle soit mieux qu'une autre, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer de faire ça ensemble. Et j'adore par-dessus tout le travail avec les gens là. Là, avec eux, c'est génial. Moi, ce que je préfère, c'est les répétitions, en fait. D'ailleurs, même les pauses.
C'est ce que je préfère. Non, je... Ouais, c'est vraiment ce que je préfère, l'humain. Que chacun se dise quelque chose avec Marc Desjardins, qui est premier violon sur Péléas. C'est vrai qu'on, c'est intéressant quand j'ai son avis sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Il m'a fait par exemple à la générale là, qui est... donc on a un raccord entre la générale et le concert. À la générale, il m'a donné une fiche avec des notes de ce qui avait marché ou pas de son point de vue. Ça, j'adore. Voilà la collaboration, et j'adore aussi la collaboration avec les metteurs en scène. Enfin voilà, j'aime bien.
Voilà, oh, moi, moi et moi. Que fais-tu là, la fenêtre, en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici?
J'arrange mes cheveux pour la nuit.
C'est là ce que je vois sur le mur.
C'est aussi qu'on n'est pas très nombreux dans l'ensemble, donc je pense que c'est accentué, mais c'est que c'est un rapport humain avec le chef qu'on a rarement, surtout en symphonique et même dans d'autres petites formations où voilà, le chef arrive, salue, dirige, parfois un petit regard, un petit sourire, et puis il retourne dans sa loge pendant les pauses. Là, non, là, c'est cool.
Il
n'a
pas de loge.
Alors, vous l'avez entendu, Victor Jacob a tous les talents. Non seulement il est chef d'orchestre, mais il chante, quand le soliste n'est pas là, le rôle de Péléas. Merci à toute l'équipe de La Petite Maison qui s'est produite dimanche dernier au Théâtre de l'Étoile du Nord à Paris et qui, comme vous l'avez compris, espère bien rejouer cet opéra. Qu'on se le dise. La chronique de la Maison Ronde. Et ce matin, une bonne surprise, la présence de Issam Krimi. Bonjour Issam Krimi.
Bonjour.
Alors je ne suis pas bien sûr que les auditeurs de France Musique vous connaissent tous. Vous êtes pianiste, compositeur. Qu'est-ce que vous êtes d'autre?
Moi, je pense que c'est les deux mots recouvrent un peu tout ce que je peux faire en musique, quoi.
Vous avez fondé un ensemble également?
Moi, j'ai surtout un passé très jazz. Je suis très reconnaissant à France Musique de m'avoir diffusé très vite dans les espaces jazz qu'il y a sur France Musique, notamment avec Alex Dutil. J'ai eu plusieurs formations à ce titre-là. Et puis ces derniers temps, on va dire que je suis plus concentré sur la musique à l'image, donc de films, de documentaires, et puis cette aventure avec le hip-hop.
Alors on va en parler, vous êtes là parce qu'il y a un énorme projet qui va se dérouler d'ailleurs aujourd'hui, ici à Radio France, c'est ce hip-hop orchestra, ou je ne sais pas comment...
Hip-hop symphonique.
Le hip-hop symphonique. Alors ça, c'est vrai que c'est deux mots qui se télescopent pas mal dans l'esprit, j'imagine, des gens, en tout cas dans le mien. Alors, est-ce qu'on peut définir un peu la musique hip-hop? Parce que le hip-hop, c'est beaucoup de la danse, mais c'est aussi un état d'esprit, peut-être.
Alors, surtout, ouais, voilà, le mot hip-hop, il a un problème dans sa définition, c'est que certains journalistes culturels français l'ont cantonné à la danse. Alors que le hip-hop est plutôt un mouvement culturel, et dans ce mouvement culturel, il y a la danse, il y a les arts visuels, donc tout ce qui est le tag, et même maintenant, il y a aussi un certain art du clip, enfin, il y a quelque chose dans le visuel, dans sa globalité, et puis il y a la musique.
Et alors, les racines de cette musique, qu'est-ce que c'est?
Pour moi, le hip-hop, c'est une continuité de ce qu'est la musique populaire par rapport aux gens à une époque. C'est-à-dire que je pense que la musique populaire a été le jazz, beaucoup, à une époque, d'Armstrong à Miles Davis. Ensuite, la musique populaire est devenue le rock. Et je pense qu'aujourd'hui, la musique populaire est devenue le rap, donc le hip-hop. Et comme toutes les musiques populaires, elles sont influencées par toutes les musiques qu'on peut entendre. Et c'est un art, on va dire, du quotidien, où on pose le texte sur une musique qui a été choisie et fait dans ce cadre-là de la vie de tous les jours, quoi.
Hip-hop symphonique, ça veut dire que, donc, à cette culture hip-hop, vous avez associé, car c'est vous, Issam Krimi, qui dirigez ce projet sur le plan artistique, vous avez associé un orchestre symphonique qui est l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Exactement, voilà. Le principe, c'est justement d'aller dans cette continuité de ce qu'est ma vision du hip-hop et du rap, c'est-à-dire une musique de toutes les musiques. Et puis aussi, je fais une différence quand même avec la France et le reste du monde, parce que le rap ou le hip-hop est assez facilement imprégné dans la culture populaire américaine ou anglo-saxonne. Ici en France, on a encore un petit peu...
Des résistances.
Un peu de réaction, il y a plusieurs mots pour ça. En fait, on ne se rend pas assez compte que c'est une musique de musicien. c'est une musique des lives de Jay-Z ou Kanye West. Enfin, par exemple, j'ai vu.
C'est une musique qui se fait en direct sur scène.
Voilà, avec des musiciens. C'est-à-dire que musiciens. Les grands artistes de hip-hop, quand ils veulent partir en tournée et faire un show à la hauteur de ce que le public demande, après, il y a des mélanges. Hein. On tombe avec des moitiés électroniques, moitié DJ, moitié musicien. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, les musiciens comptent. Ici, en France, on a un avantage. Voilà, on a des beaux orchestres, on a un savoir-faire, on a une qualité. Et le rap et le hip-hop a une histoire sur son appétence pour la musique, et même classique aussi.
Il y a quelques rappeurs qui s'inspirent dans leur mix de musique classique.
Ils samplent, oui. Voilà. Ils passent leur temps à écouter, à trouver des vinyles, à écouter de la musique et se dire, bah, tiens, je vais prendre ce bout-là. Voilà. Et là, le truc, c'est de dire, bah, chiche, on crée avec tout ça, en vrai, avec 100% de musiciens sur scène. Quoi.
Alors, pour ce projet Issam Krimi, vous avez fait une sélection, parce que des rappeurs, il y en a beaucoup, vous en avez sélectionné un certain nombre. Pourquoi ? Il vous semble emblématique de différents courants ?
La démarche pour moi, ce que j'avais dit dès le début, c'est que je veux qu'on prenne des artistes qui ont eu un impact culturel fort. En disant ça, ça m'évitait de dire on prend les artistes plus commerciaux, ou ça m'évitait d'avoir une sorte de prise de parti qui permettait pas d'avoir une vision large de ce qu'est le hip-hop. Vraiment, c'était l'idée, c'est culturel et artistique. C'est-à-dire que je suis mis à écouter beaucoup de rap, et le choix s'est fait sur des artistes assez emblématiques et patrimoniaux maintenant, parce qu'on s'est quand même cantonné sur une période 90-2000, et on a fait une petite fenêtre d'ouverture aujourd'hui avec des plus jeunes qui ont 20 ans, quoi.
Alors, il y a 5 artistes ou groupes sélectionnés. IAM, MC Solar, Arsenic, Youssoupha et Big Flo et Oli.
Exactement. Je pense qu'on a un bel éventail. Nos deux poids lourds, j'ai envie de dire, avec IAM et MC Solar, qu'on n'a pas eu la chance de voir très souvent sur scène. Donc là, il nous fait l'honneur de venir sur ce projet parce que je pense qu'il est séduit par la qualité artistique qui est rarement proposée à un artiste de rap aussi.
Oui,
Ensuite, on a Arsenic, qui est un groupe qui compte quand même beaucoup dans l'histoire du hip-hop, notamment ses deux frères, et puis notamment la plume de Lino, qui est une plume très respectée et très intéressante dans le hip-hop. Youssoupha, qui est quelqu'un qui est justement, j'ai envie de dire, sur le devant de la scène en ce moment, et qui en plus, lui, a un rap où les influences plus africaines sont fortes. C'est important aussi de marquer ça dans ce qu'on va faire avec le symphonique. Et puis on a Big Flo et Oli, les deux jeunes Toulousains de 20 ans, qui sont sur une autre esthétique hip-hop et qui en même temps n'auraient pas fait ça si c'était pas des fous de ce hip-hop des années 90, très underground, très revendicatif. Pour moi, il y a un lien, quoi.
Il y a déjà une filiation. Alors donc voilà, 5 artistes, des chansons, on va dire, entre guillemets, des arrangements que vous avez faits, une femme, chef d'orchestre. Elle vient du Canada.
Il y a deux personnes très importantes sans qui ces choses-là ne pourraient pas se faire. Il y a l'orchestration que j'ai fait à quatre mains avec Camille Pépin, qui est une jeune compositrice qui a un énorme talent et avec qui j'ai pris un énorme plaisir à faire ce travail qui est particulier. Orchestrer pour orchestre seul, on peut avoir ses habitudes, mais orchestrer avec une rythmique, on a énormément travaillé là-dessus. Pour moi, c'est le cœur du projet. Ouais. Si la partition est pas belle, le projet
rate. Voilà. Donc c'est trouver un équilibre.
C'est ça. Et je pense qu'on l'a trouvé. Et ensuite, il y a Dina Gilbert, qui est une chef, la chef assistante de l'Orchestre de Montréal, assistante de Ken Nagano, qui a l'habitude, alors contrairement à nous ici en France, au Canada, ils ont l'habitude de faire ce type de configuration. Alors pas forcément dans l'hip-hop, mais dans les musiques, on va dire R&B, afro-américaine, qui est la chef parfaite pour justement appréhender cette spécificité qui est, d'un certain sens, une première mondiale, le 100% musicien, d'assumer que tout est joué pour le hip-hop. Voilà, donc on va avoir quelqu'un qui, même si elle est très jeune, est déjà expérimenté sur ce type de configuration. On va entendre tout ça ce soir, 19h, à l'auditorium de la Maison de la Radio.
On a certainement aussi là le désir que les publics se mélangent, que les genres se mélangent et que les publics se mélangent. Ah bah, et c'est un peu tout le but de ce projet.
Pour moi, il faut que le mélange que l'on verra sur scène avec autant de femmes, de gens d'origines différentes, soit le d'âge aussi, soit la même chose au niveau du public. Quoi. Je pense qu'on aura gagné sur tous les plans.
Merci beaucoup.
Bah, c'est moi qui vous remercie.
Agenda. Vous avez encore le temps, si vous êtes parisien, de venir nous rejoindre ce soir à la Maison de la Radio pour assister à l'enregistrement de la fiction radiophonique 20 milieux sous les mers de Jules Verne avec l'Orchestre National de France qui jouera la musique imaginée par Didier Benetti. Musiciens, comédiens et bruiteurs seront sur la scène du studio 104 pour vous offrir l'une des spécialités maison, un spectacle radiophonique. C'est ce soir à 20h, mais aussi à 22h. L'Orchestre Philharmonique de Radio France, lui, va vite rallier les corégies d'Orange pour jouer dans la fosse de son théâtre antique Madame Butterfly de Puccini. Avec l'orchestre, une distribution de rêves. Ermolena Yao, Marie-Nicole Lemieux, Brian Himmel, Marc Barrard et quelques autres, ainsi que les chœurs de l'Opéra d'Avignon, Nice et Toulon, placés sous la baguette de Mico Franck. C'est samedi prochain, le 9 juillet, à Orange, et en direct sur France Musique, le mardi 12 juillet. Et puis bien sûr, ne manquez pas le maintenant traditionnel concert de Paris le 14 juillet avec l'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France et Daniel Legati qui revient diriger pour la dernière fois cette saison son orchestre avec une myriade de chanteurs et de musiciens, tous plus prestigieux les uns que les autres. Patricia Petitbon, Marie-Nicole Lemieux, Juan Diego Flores, Julian Rachlin et bien d'autres. Ce sera en direct sur France 2 et sur France Inter.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu triste. Les auditeurs vont être tristes. Nous le sommes aussi. C'est la dernière. Alors, pour cette dernière, qu'est-ce que vous nous avez concocté ?
Eh bien, pour cette dernière, je voulais rendre un hommage à la radio et au phonographe au travers de la chanson perpétuelle de Chausson. Parce que le texte est écrit par Charles Cros. Charles Cros qui est un des pères du phonographe. La chanson perpétuelle, parce que il faut recommencer. la radio, parce que ça a été un tube de la radio, il faut bien le dire, dans les années de l'immédiate après-guerre. Et puis, Géorgie Riboué, qui chante, a été aussi un personnage assez fabuleux qui nous relie très nettement à Reynaldo Hahn, qui adorait la radio et le phonographe, qui voyait dans ces deux instruments un rempart contre l'oubli et la bêtise. Donc,
il avait assez
ça ne pouvait
raison.
Pas tomber mieux, finalement, que d'écouter cette douce chanson perpétuelle.
Oh.
Cette voix assez pathétique de Géry Boué dans la chanson perpétuelle d'Ernest Chausson et Charles Cros, vous le disiez, Jean-Yves Pat.
Oui, exactement.
Elle est accompagnée du quatuor Pascal et de Raymond Trouard au piano. Raymond Trouard, qui était un pianiste très célèbre.
Un pianiste très célèbre et qui a commencé sa carrière très curieusement en jouant l'enfant Chopin dans un film dans les années 25. Et c'est assez drôle parce que on imagine ce petit bonhomme qui se prend pour Chopin. Évidemment, ça marque un destin.
Ah ben ça, c'est sûr. C'est un disque Odéon, Paris 1947. Alors, Jean-Yves, va, doma dove.
Mais je ne sais pas, justement. Et je vous propose cette très belle interprétation d'une magnifique mezzo d'origine germanique, Irma Seyfried, que tout le monde connaît. Elle a une carrière qui, évidemment, s'est épanouie pleinement dans l'immédiat après-guerre et même encore jusque dans les années 60-70, qui est une voix telle qu'on les aime, c'est-à-dire qu'il y a toute cette suavité, toute cette rigueur germanique et en même temps, ce soupçon d'abandon qui est suggéré par le texte de Da Ponte. Et évidemment, c'est un air de concert magnifique de Mozart, enregistré en 53. Et vous allez voir, on comprend pourquoi souvent on préfère les derniers 78 tours aux premiers 33 tours. C'est une gravure exceptionnelle.
Danser, 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 danser
Irmgard Seefried, mezzo-soprano, était l'interprète de cet air, extrait d'un...
C'est un air de concert, en fait.
Un
ça
air
fait
de
partie
concert.
De ces grands airs mozartiens, oui.
Vado Madove.
Eh oui.
Elle était avec les London Mozart Players sous la direction de Harry Blech.
Et osez me dire que ça ne vous a pas plu.
Ça m'a plu.
Oui. C'était quand même...
Ça m'a plu, je dois dire que ça m'a plu.
Assez remarquable.
Ah oui, c'est remarquable. Alors...
Toutes les bonnes choses ont une fin.
Voilà, c'est
donc
la dernière.
On va tirer la révérence avec la valse de l'adieu, que c'est très approprié, non?
Mais tout à fait. Alors, qui nous avez-vous choisi comme
Alors,
pianiste
je l'ai
remarquable?
Par Marcel Ciampi, qui a été une grande légende du piano.
Il y en a à qui ça va faire plaisir.
Voilà, et il l'a enregistré en 1929 à Paris. Thank you.
C'est trop triste cette valse de l'adieu, Jean-Yves.
C'est fait pour.
C'est fait pour. Marcel Ciampi, magnifique
Ciampi.
Pianiste. Ciampi, Ciampi, en fait.
Ciampi.
Et c'est un disque Columbia, Paris, 1929.
Allez, adieu.
Adieu, Jean-Yves. Et voici pour finir notre rubrique « Parlez-moi de musique » dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons un dernier texte, celui que nous a envoyé Josiane Blachon. C'est l'été 1978 dans le sud de la France, l'été des festivals. Mais pour moi, à ce moment, ma réalité n'est pas la même. J'ai perdu mon emploi et ne trouve que des travaux subsidiaires. Cependant, le festival a du bon, j'habite à Carpentras, j'ai trouvé un travail comme serveuse dans un restaurant pizzeria pendant cette période. Les soirées se succèdent au rythme cadencé de deux services en soirée, ce qui nous conduit tous ces jours à terminer vers 3h du matin, éreintés. Toutefois, malgré la fatigue, c'est une activité vivante, les contacts sont multiples, décontractés, chaleureux. Le festival, c'est un moment de fête. La clientèle s'émerveille facilement. Le monde est ouvert, le miracle de l'art sans doute. Oui, l'art plane dans la ville. Entre autres manifestations, l'opéra Mireille va se jouer à l'extérieur de la cathédrale Saint-Siffrin. C'est le premier jour de concert. Les clients affluent après le spectacle. Les conversations sont animées. Certains, voire beaucoup, sont enthousiasmés. Tout y passe. La mise en scène, la direction, les voix sublimes qui les ont conduits à l'enchantement et la délicieuse soirée d'été où la température idéale n'était pas troublée par le moindre mistral. Je n'ai jamais vu ni écouté d'opéra et je ne suis pas attirée. Ce soir-là, en arrivant prendre mon service vers 18h, c'est tout d'abord le repas avec l'équipe de restauration. Et la soirée va commencer. Vito, le patron, nous annonce que ce soir va venir souper Roberto Benzi avec la troupe de Mireille à la fin du spectacle en deuxième service. Roberto Benzi. J'ai le sentiment de bien le connaître. Je me suis offert le disque des préludes de Liszt sous sa direction il y a quelques années. C'est le vinyle qui m'accompagne lorsque je m'adonne à la peinture, mon violon d'Ingres. Il structure et colore le temps de loisir que je consacre à cet art. Avec la fougue de mes 25 ans, je demande à Vito d'aller récupérer ce disque pour que le maître soit accueilli dans le respect et l'admiration de son art. Je cours donc chercher le disque magique bien protégé dans sa pochette plastique. Et je suis rapidement de retour. Voici l'entrée, le bar à droite, à gauche, dans une encoignure, juste avant la distribution des salles de restauration, la chaîne audio. J'installe fébrile et minutieusement mon disque sur la platine de manière à pouvoir faire résonner la musique dès l'entrée du maestro. Le temps me paraît long, si long jusqu'à l'arrivée de la troupe. Soudain, la rumeur se répand, voici nos invités du soir. Roberto Benzi entre le premier. Le disque est lancé depuis quelques secondes. Le temps de faire quelques pas, il s'arrête net. Le regard interrogateur est interloqué. Il demande presque brutalement « Qui a fait ça ?» Un peu dans l'ombre, près d'une porte de communication des salles, j'avance, hésitant, me disant « C'est moi, maître. » Alors il s'écrie « C'est vous qui vous occuperez de notre table. » Ce n'est pas mon métier, je suis un peu dans la crainte d'avoir quelques manquements, mais tellement heureuse. Alors je mets de l'ardeur au service que je peux dispenser, sans oublier son chien lévrier gris qui demande lui aussi mon attention. À la fin du repas, le maestro m'invite à m'approcher de sa table afin de me dédicacer la pochette de notre disque sur laquelle je garde, telle une relique, ce petit mot, souvenir d'un passage à Carpentras pour Mireille
au Festival 1978 et une belle signature où Roberto est écrit en caractère plus gros que Benzi. Il m'offre également 2 entrées pour assister au spectacle. J'irai donc à 2 reprises me baigner dans la Provence de Mireille. À ce premier rendez-vous avec l'opéra, je suis cueillie, enlevée, bouleversée, bousculée. Et c'est ainsi le début d'une merveilleuse liberté de curiosité. Illustrer le souvenir musical de Marie-Josiane Blachon, nous avons écouté d'abord un extrait des préludes de Franz Liszt, puis Jeannette Vivalda chanter l'air de l'Hirondelle, extrait du Mireille de Gounod, avec l'orchestre de la Société des Concerts, dirigé non pas par Roberto Benzi, mais par André Cluytens. Merci à tous pour vos textes que je me suis fait un plaisir de lire pendant toutes ces années. Et pour se quitter, sachez que la collection Okora de Radio France vient de publier un disque magnifique consacré aux chants spirituels et soufis d'Ouzbékistan. Et pour cette dernière émission, nous vous proposons de gagner un disque de cette collection Okora consacré aux musiques du monde. Vous avez le choix entre la Suède, la Centrafrique, Java, la Crète, le Congo ou la Guadeloupe, des musiques venues d'ailleurs et qui vous conduiront cet été en voyage. Pour gagner l'un de ces disques de la collection Okora, c'est simple. Il vous suffit de nous écrire à la page de l'émission sur le site de France Musique. C'est la fin de Fabrication Maison, réalisée avec la merveilleuse complicité de Pauline Boisaubert, qui prépare l'émission, de l'infatigable énergie de Philippe Petit, qui la réalise, et aujourd'hui de Benoît Latil et de José Bernès, que je remercie également. J'aurai néanmoins le plaisir de vous retrouver tous les samedis et dimanches du mois de juillet pour la matinale de l'été, de 7h à 9h. À très vite, j'espère.